suite.
Alors, donc c'est une table ronde consacrée à un jeu de rôle imaginaire. Bon, c'est les mecs et les garçons, là aussi. Donc avec Fabien Tirouti, qui est l'auteur de deux et bientôt trois romans de la série Le Bâtard de Gossigal, publié chez Nemos depuis 2014. Donc L'Ombre du Pouvoir, puis Le Fou prend le Roi, et bientôt cet été Le Marteau des Sorcières. Mais ce personnage et son univers avaient d'abord été développés, hein, ce que j'ai compris, hein, tu n'hésiteras pas à revenir sur cette question, dans le cadre du jeu en ligne Neverwinter Nights, qui lui-même se situe dans, c'est un des royaumes des Forgotten Realms, des royaumes oubliés de Donjons et Dragons. D'accord. Romain Duhissier est lui aussi donc auteur à la fois de JD, de jeux de rôle et de fiction narrative. Il a de nombreuses participations à son actif au développement d'univers de jeux, principalement d'inspiration asiatique chinoise. Le livre des cinq anneaux, par exemple, ou Chin, ok. Son premier roman, qu'on avait salué par une nomination ici l'an dernier, Les 81 frères, qui a une suite, hein, La résurrection du dragon, donc, qui sont parus chez Critique, prolonge donc, cette expertise sur la culture chinoise, puisque donc, c'est de la fantaisie urbaine, du polar, dont le héros, Johnny Kwan, est un exorciste qui enquête dans les bas-fonds surnaturels du Hong Kong contemporain. Stéphane Plateau est un auteur belge d'une très belle série publiée chez Les Moutons Électriques qui s'intitule, donc c'est le nom de la série, Les Sentiers des Astres avec Manèche, prix Imaginal 2015, Shakti et aussi Dévoreur qui est un hors-série mais dans le même univers. Stéphane est lui aussi pratiquant de jeux de rôle et en fait ton univers là encore a été d'abord développé pour le jeu, je crois. Je finis le tour de table. Et puis aussi une pratique de l'histoire vivante, de la reconstitution historique en tant qu'auteur de spectacle, donc un autre aspect du jeu que tu pourras nous présenter. Et enfin, Fabien Fernandez, auteur et illustrateur, on le connaît bien ici aux Imaginales, en tant que coordinateur de la fresque, voilà, que vous pouvez admirer dans la plume du livre. Ça fait déjà plusieurs années qu'il s'en occupe avec une équipe d'illustrateurs aussi sympathique que talentueuse. Mais Fabien est aussi auteur. Il a été auteur pour la jeunesse d'albums comme Laponie, Voyage polaire, et de romans publiés chez Oscar, Cœur sauvage en 2015 et L'enfant mitraillette en 2016. Et il est aussi très actif du côté des jeux de rôle, notamment auprès des maisons d'édition des 12 singes et de Matago. Mais bon, il va nous en dire davantage lui aussi, parce que je vais commencer par là. Je vais vous demander de préciser votre rapport aux jeux de rôle sur lequel je suis passé très rapidement, voilà, nous en dire plus sur qu'est-ce que vous faites dans ce grand, vaste milieu qui côtoie celui de la littérature, mais qui a son indépendance et qu'on connaît moins, peut-être, dans la salle.
C'est moi qui commence, ça, c'est... Alors, je ne sais pas trop par où commencer. Donc, moi, j'ai surtout commencé par le jeu de rôle, comme beaucoup. Ensuite par ce qui m'a mené à l'illustration et ce qui m'a mené ensuite à l'écriture. En termes de jeu de rôle, on va parler des derniers trucs, ce sera plus simple. J'ai donc Projet Pélican, deuxième édition, qui vient de sortir chez les 12 singes, qui est un cadre historique horrifique, où on interprète des Amérindiens. J'ai un scénario pour la dernière édition de Donjons et Dragons qui va sortir incessamment sous peu, peut-être un jour. Ça c'est le terme employé dans le milieu rôlistique. Voilà, les plannings sont très élastiques. Je suis en train d'écrire un supplément pour un jeu de rôle. Je ne sais pas trop si je peux en parler, mais en fait on s'en fout, on va dire. Pour Wizin, qui est un jeu de Benoît Atinost. C'est un supplément qui va traiter de Détroit.
Qui est un jeu de quoi?
Wizin, c'est le jeu qui a été écrit par Benoît Atinost, qui est un des grands contes du milieu du jeu de rôle. Donc moi, j'écris un supplément sur la ville de Détroit. Donc le jeu Within, c'est, on va dire, du jeu d'horreur au sens large. Et Détroit, pourquoi ? Parce que j'ai aussi un roman qui sort donc, chez Gulfstream en début septembre, qui se nomme Détroit. Donc je profite, en fait, je fais des ponts quand j'étudie un sujet. J'optimise un petit peu mes temps d'études pour me diversifier après. Et on va s'arrêter là parce qu'après ça va être long et puis on ne peut pas parler.
À moi quoi ? Que dois-je dire ?
Ton rapport au jeu de rôle, sur lequel j'étais pas vraiment très au point, parce que autant les autres, dans leur biographie, figurent lors des rêves pour le jeu de rôle ou leur pratique importante pour Fabien et puis pour Romain, à plusieurs raisons, autant. Tu vois, il y a rien en tant que vous.
J'ai pas noté dans ma biographie parce que, en fait, tous les auteurs de fantasy ont presque font du jeu de rôle, donc je dis que ce sujet n'est pas bon. Mais voilà. Je m'appelle Stéphane et je suis rôliste. Mais je ne compte pas arrêter. Voilà. Mais sinon, le rapport, simplement, c'est que moi, j'ai mené une table de jeu de donjon améliorée à ma sauce parce que voilà, j'avais commencé là-dessus. J'ai joué des tas d'autres trucs, évidemment, mais j'ai mené ma table pendant 20 ans avec un groupe d'amis. On a vraiment traversé notre armoire magique à nous. On avait notre monde à nous, donc c'est quand même quelque chose qui nous soudait assez fort. Il nous soude toujours. Et en fait, finalement, ma saga a fini par être une énième évolution de mon monde de jeu de rôle, un moment où, à la fin de la campagne, j'ai commencé à vouloir le retransformer pour ne pas repartir à zéro, mais pour gommer les éléments trop classiques, virer les elfes, chambouler complètement les nains, rajouter des géants solaires, des géants lunaires, et tout ce qui compose mon univers, mettre cette petite touche hindoue pour en faire un monde qui ressemble un peu au monde celtique conquis par les hindous et puis évoluer vers le Moyen-Âge. Et puis, ben voilà, j'ai voulu tester aussi ce nouvel univers sous forme de jeux de rôle. Et donc, j'ai commencé des backgrounds pour certains vieux amis, pour des joueurs. Et puis, il se fait que j'ai créé un background pour un demi-solaire et que j'ai commencé à l'écrire. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais en faire un roman. Et puis, en fait, le gars, il n'a jamais joué son background. Je n'ai jamais joué le perso, mais le perso est devenu un roman.
Romain, peut-être celui qui est l'auteur du plus grand nombre de jeux de rôle ici.
Peut-être, je ne sais pas. Fabien en a quelques-uns à son actif quand même. Moi, je ne saurais pas dire, je ne compte pas, mais disons que oui, j'ai quand même pas mal de gammes sur lesquelles j'ai travaillé. Effectivement, entre Sim, Capharnaüm, Devastra, Hexagone Universe, Luchador, la Brigade Chimérique, bientôt Mythic Battles Panthéon, plus le fait que j'écrive aussi dans Casus Belli et dans Dissident, qui sont les deux magazines spécialisés du milieu. Donc puisqu'on parle du rapport qu'on a toujours, j'ai un rapport, on va dire, très étroit avec le jeu de rôle, puisque c'est vraiment par là que j'ai commencé l'écriture professionnelle. C'est en écrivant d'abord de façon amateur, hein, vous évoquiez le livre des 5 anneaux tout à l'heure, qui est un jeu américain pour lequel j'ai écrit des suppléments amateurs qui n'ont jamais été en vente ou édités professionnellement. Mais c'est ce qui m'a formé à une certaine forme d'écriture, ce qui m'a permis de vaincre des complexes vis-à-vis du fait d'écrire, qui m'a amené vers le monde professionnel de l'écriture. Alors d'abord effectivement dans le milieu du jeu de rôle où j'ai beaucoup écrit, puisque j'ai continué à avoir des complexes en me disant bon, le jeu de rôle, c'est bon, j'y arrive, mais la littérature, c'est autre chose, c'est plus noble, c'est plus. Enfin, voilà, on se fait des choses stupides en tête, sur lesquelles je reviendrai. Parce que le jeu de rôle, souvent, a été considéré comme une sorte de sous-littérature, ou un produit dérivé, ou quelque chose de moins noble que les romans. Et puis finalement, un jour, je me suis dit merde, en bossant sur la Brigade Chimérique, l'adaptation au jeu de rôle de la BD de Serge Thaumann et Fabrice Collin, qui sont tous les deux écrivains également. À force un petit peu de les fréquenter, de les côtoyer, on va dire que la passion pour l'écriture, elle est contagieuse. Donc ils m'ont encore transmis ce virus, et je me suis dit, merde, allez, je me lance, quoi. Donc j'ai répondu à des appels à texte, pour des nouvelles d'abord, j'ai été accepté. Ensuite, j'ai présenté des manuscrits à des petits éditeurs comme Rivière Blanche, le Carnoplaste, Malpertuis, qui étaient acceptés. Donc au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, finalement, je ne suis pas si mauvais, le jeu de rôle est peut-être une très bonne école d'écriture, quelque part. Parce qu'on apprend une certaine rigueur, on apprend à tenir des délais, on apprend à rendre un texte lisible, que le lecteur, le rôliste peut
s'approprier pour l'utiliser ensuite. Donc il y a effectivement quelque chose de très formateur là-dedans, et ça a beaucoup chamboulé mon rapport, on va dire, au jeu de rôle et à l'écriture, où j'ai cessé de me dire que le jeu de rôle était moins noble que la littérature, et que c'est finalement deux médias frères qui gagneraient vraiment beaucoup à plus communiquer, à plus interagir. Donc voilà, moi, mon rapport avec ces deux formes d'écriture.
Oh bah oui, on va revenir bien sûr sur ce rapport entre roman et jeu de rôle qui sera au cœur de cette table ronde, puisque c'est ce qui vous lie aussi.
Je suis l'incarnation des espoirs de Romain.
C'est lui.
Non, moi j'ai commencé par alors quand j'étais jeune, par lire. On m'a fait découvrir les romans de l'imaginaire vers entre 11 et 13 ans globalement, et j'ai adoré ça. Et j'ai adoré ça à un moment où en même temps je m'intéressais au jeu. C'était les tout débuts, c'était le temps de jeu stratégique, Casus Belli, de Rune. On était dans les tout débuts du jeu de rôle, il y avait des traductions pirates qui circulaient d'un nouveau jeu qui s'appelait Donjons et Dragons. Enfin voilà, et donc les livres que j'ai lus, j'ai tout de suite voulu les transformer en histoire. Donc j'ai pris ces livres et je les ai transformés en histoire de jeu de rôle avec ce jeu de rôle que j'avais en main, dont j'ai vite senti un peu les limites, parce que personnellement je préfère justement un certain nombre de jeux de rôle qui se sont développés après, qui permettent beaucoup plus de storytelling, beaucoup plus de des histoires beaucoup plus imagées, beaucoup plus rapides, fluides. Et donc j'ai transcrit les livres que j'adorais en jeu pour mes amis. Et c'était génial, c'était une époque fabuleuse. Ah oui, je tiens à dire que moi, mon rapport avec le jeu de rôle n'est qu'amateur. Hein, je ne suis pas du tout professionnel, ni rien du tout. Voilà. Mais j'ai failli. Mais je me suis dit... ouais, c'est pas très tard. Et donc après, avec le temps, et l'apparition des jeux de rôle informatiques, j'ai vu l'opportunité de faire le chemin inverse, c'est-à-dire d'inventer mes propres histoires cette fois, et de les retranscrire sous forme d'un jeu qui soit à la fois un jeu de rôle et en même temps visuel. Alors le problème de la plupart des jeux de rôle informatiques, c'est qu'ils n'ont de jeu de rôle à peu près que le nom. C'est-à-dire qu'après, derrière, on ne peut pas vraiment choisir son rôle, ou alors les choix sont des faux choix, on revient finalement. Donc moi, j'ai voulu faire quelque chose qui était vraiment un jeu de rôle. Et pendant donc, de 2002 à 2008, j'ai fait des modules, c'est-à-dire des scénarios pour le jeu de rôle Neverwinter Nights, qui est un jeu de BioWare, et des scénarios en fait où tout était axé sur l'histoire. Effectivement, c'était dans Neverwinter Nights, donc dans un des voilà. Mais moi, je l'ai transposé dans notre France médiévale, et c'était la naissance de mon Bâtard de Cossigan, de ses premières histoires, et une sorte de mélange entre la magie à l'anglo-saxonne et le monde médiéval qui est le nôtre, avec ses codes, sa chevalerie, etc. etc. Et donc ça, par contre, ça a bien marché, effectivement. Du côté jeu de rôle, c'est là où je me rapproche le plus d'un petit rapport avec le professionnel, parce que j'ai appris à programmer pour réussir à faire ces jeux-là. Donc je me suis énormément investi. Au total, je crois qu'il y avait plus de 500 000 mots de dialogue dans l'ensemble des aventures que j'ai faites. Et c'est justement là qu'on m'a dit, mais écoute, c'est dommage, le jeu de rôle informatique, c'est bien, mais c'est éphémère. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, le jeu n'existe plus et tout le travail est perdu. Et j'ai donc continué le travail en revenant du jeu de rôle vers le livre. Donc ça fait une sorte de boucle. Moi, j'ai commencé par le livre, je suis passé au jeu de rôle. J'ai transformé mes histoires en jeu de rôle, et le jeu de rôle m'a ramené au livre en racontant ces histoires maintenant sous forme de roman. Voilà, j'ai fini, je peux demander. J'ai tout dit.
Les modules en question, ils étaient accessibles à tous les joueurs?
Alors, tout à fait, tous les joueurs en ligne du monde. Sachant qu'il y avait un site qui s'appelle Neverwinter Night Vault, qui était le site qui classifiait, qui classait les modules, et que le Bâtard de Rob Cossigan, sur un site anglophone, est resté numéro 1 pendant 8 mois, je crois, et qu'il a, non seulement ça, mais qu'il a été traduit par des fans anglais qui voulaient absolument y jouer, et voilà, donc le dernier épisode a été fini d'être traduit l'année dernière. C'était super sympa.
Si on
une belle expérience. Une belle voilà. BioWare m'a demandé si je pouvais écrire en anglais. Je leur ai dit non. Et voilà où s'arrête mon expérience professionnelle de jeu de rôle.
Le jeu vidéo, les autres, c'est aussi quelque chose que vous pratiquez, que vous aimez, que vous intégrez dans votre imaginaire ou pas du tout? Il y a une séparation
dans alors votre moi, pas du tout. J'y connais rien en jeu vidéo, je ne fais pas de jeu vidéo.
Pourquoi? Ça, c'est réglé.
Ben, moi, ça fait 10 ans que j'ai plus vraiment passé du temps là-dessus, et si je veux bien, j'ai envie, conseillez-moi des jeux vidéo, mais oubliez le tome 3 parce que ça, je ne vais pas avoir le temps d'écrire. Donc je le repousse loin de moi, même si j'aimerais beaucoup explorer les univers extraordinaires que je vois parfois passer, mais je ne peux pas, mais c'est vraiment dommage en fait.
Et toi,
moi, je suis un peu le mélange de tout ça, c'est-à-dire que non, je ne joue pas parce que c'est chronophage, que je préfère faire des vraies parties de jeux de rôle. C'est-à-dire sans les limites du jeu vidéo, et puis avec les gens en face de moi, donc je ne veux pas être désolé.
En fait, pour résumer, vous voyez les sacrifices qu'on fait pour pouvoir vous offrir un bouquin.
Non, mais c'est l'impression que j'avais souvent, il y a pratiquement de jeux de rôle papier, et assez peu,
oui, il y a les vrais et les faux, quoi.
sont passés online, parce que justement, ils retrouvent pas l'intégralité de l'expérience, même s'il y a d'autres avantages.
C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis à faire des modules, c'est parce qu'effectivement, les jeux de rôle traditionnels informatiques n'apportent quasiment rien par rapport à un jeu de rôle sur table qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus sympa. Alors évidemment, il y a toujours le manque du contact humain, ça c'est clair. Hein. Là, je joue actuellement avec Gabriel Katz, on fait une table sur Paris et c'est super sympa. Ça, oui, ça c'est super, c'est beaucoup mieux, mais on peut quand même trouver certains jeux informatiques qui ont une vraie dimension de jeu de rôle, évidemment solitaire, donc c'est moins bien, mais il y a quand même quelque chose de sympa.
Alors, je pense que c'est aussi un palliatif pour ceux qui n'ont pas de joueurs autour d'eux.
Ah, c'est ça, c'est ça.
Et sinon, il y a des applications quand même informatiques, comme c'est Roll20, si je ne me trompe pas, qui permettent de jouer à distance, de façon, je ne suis pas trop calé sur le sujet, mais c'est un petit peu comme si on faisait partie par Skype avec des outils... de GD en ligne, ce genre de choses. Alors, pour ceux qui ont des amis, mais loin.
Vous disiez tout à l'heure, Stéphane Plateau, c'est presque un incontournable hein, pour tout auteur de fantasy. Et puis voilà, on apprend que Gabriel Katz se fait aussi
jouer. Il a même fait son propre jeu de rôle, il devrait être là, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas parmi.
Mais parce que vous seriez trop nombreux, voilà, c'est ça.
J'ai donné la liste des coupables
à Stéphanie. Charlotte Jusquet, qui était là tout à l'heure, et tout à l'heure, liste également.
C'est une belle école.
On peut
balancer Lionel Lavoux aussi. Enfin, il y en a plein. Hein.
Les exemples, à votre avis, pourquoi cette convergence manifeste qu'est-ce qui
magnifique.
Explique enfin, c'est vraiment une culture commune. Hein.
Comme je disais, ouais, pour moi, c'est une école. Il y a vraiment eu, je pense, dans les années 80-90, une vague niveau jeu de rôle qui avait beaucoup plus de succès à l'époque qu'il en a maintenant, parce qu'il était justement pas en concurrence avec le jeu vidéo ou avec les séries télé ou tous les nouveaux médias. Et nous qui étions lycéens, collégiens, enfin, on découvrait ça peut-être plus facilement qu'on découvrait la littérature d'imaginaire, qui n'était pas forcément en France, à part Fleuve Noir Anticipation, c'était pas extrêmement développé. Et par le jeu de rôle, on découvrait tous ces univers. On découvrait les auteurs américains qui étaient adaptés en jeu de rôle, Moorcock, etc. Du coup, je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est par là que j'ai un peu découvert les littératures de l'imaginaire, à force de faire du jeu de rôle et de me dire, ben, tiens, c'est marqué adapté du cycle d'Elric de Moorcock, et si je lisais ces romans. Et c'est comme ça que je plonge un peu dans l'imaginaire. Et la boucle finalement se boucle, puisqu'à force de faire du jeu de rôle, j'ai envie aussi d'écrire, d'avoir du jeu de rôle puis des romans. Donc je pense qu'il y a une école qui s'est créée, et on est maintenant tous arrivés en âge d'avoir écrit des romans et d'oser les proposer à des éditeurs. Donc ouais, forcément, il y a une génération avant nous également, hein, Fabrice Collin, Mathieu Gaboury. Ils sont pas tout à fait morts encore, ils bougent un petit peu, j'ai vérifié la dernière fois.
Donc la fantaisie française naît du jeu de rôle. c'est vraiment
mais ça va plus loin que ça. C'est ça. Mais Angelone aussi. Angelone aussi. C'est vrai. Stéphane Marsan était de chez Multisim.
Oui, tout à fait. Enfin, il a créé Mnemos et ensuite il est parti.
Voilà. Mais certaines des plus grosses boîtes d'édition de l'imaginaire en France sont des émanations de Wallistes. À ce niveau-là, oui, je pense vraiment qu'en France, il y a des liens énormes dont on n'a pas toujours conscience entre le jeu de rôle et la littérature d'imaginaire. Parce qu'on est tous pratiquants de jeu de rôle, quasiment.
Quand je suis arrivé à mon premier salon littéraire, Paris, je crois, avec mon premier bouquin en main, j'ai rencontré Laurent Klotzoff qui m'a fait bonjour, salut, moi c'est Laurent, héroliste, je suppose. On l'est tous.
Voilà, c'est ça. Ce que je voulais ajouter à tout ce qui est intelligemment dit jusqu'à présent, c'est pour ça que je n'ose pas trop parler, c'est que je pense que le jeu de rôle est formateur pour créer quelque chose. On devient vite des démiurges quand on pratique, et donc je pense que ça facilite la création d'univers, et donc des livres d'imaginaire, c'est une sorte de suite logique.
Alors c'est bon pour le world building, c'est sûr qu'on développe énormément la construction d'univers. C'est bon aussi pour la construction de personnages, rien de rien. Et puis alors c'est bon aussi pour donner une voix à ces personnages. Là pour l'instant je fais un peu le forcing pour qu'il y ait plus de lecture publique ou donner le texte en plus en prestation, plus dans l'oral. Parce que je pense qu'on est nombreux à avoir fait du jeu de rôle, à avoir été maîtres de jeu et à savoir justement donner vie à des personnages en live. Et donc ça aussi, ça aide à la construction de personnages, à la construction même de dialogues, de répliques, etc. Et puis, pour moi qui suis un passionné de mythologie, c'est aussi le grand retour à l'oral, en fait, au jeu de rôle. On puise en fantasy dans une littérature qui, au départ, est orale, que ce soit le conte de fées ou tout simplement les mythes et les épiques qui, au départ, se transmettent de façon orale. Et quelque part, on retrouve ça avec le jeu de rôle, sauf que c'est un travail collectif sur une histoire, ce qui est quand même une grosse plus-value, même s'il y a un conteur en chef qui est le maître de jeu, les autres personnages, les autres joueurs collaborent aussi au jeu de rôle, hein, des plus en plus de jeux de rôle qui tirent la carte du collaboratif. Et puis c'est ça qui est aussi, mais de toute façon, ceci dit, même les grands épiques ont été un travail collectif, puisque Homère, le pseudo Homère, qui est auteur de l'Iliade, c'est finalement une tradition de conteurs qui ont repris la même histoire et qui l'ont enjolivée, qui ont rajouté des détails, qui ont fait quelque chose de collectif. Donc, c'est le grand retour à ça, quelque part aussi, le jeu, mais avec cette dimension collaborative et interactive qui est terriblement riche sur le plan humain. Quoi. C'est formidable, c'est écrire un livre à plusieurs, même s'il est éphémère.
Et ton travail du côté du spectacle d'histoire vivante, du coup, ça va dans la même direction de l'incarnation, de l'oralité ?
Le spectacle vivant, je dirais que c'est vraiment autre chose, mais il y a des connexions, parce qu'évidemment, beaucoup de gens qui font de la reconstitution historique sont des rôlistes qui ont envie de tenir une vraie épée, qui s'y mettent. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je casserais plutôt ça dans la série, vers où tout ce vers quoi le jeu de rôle m'a amené, et je pense qu'on est nombreux à le dire. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je voulais être poète, ou un truc, ou blandeur, ou un truc, ou manifestant. Puis à un moment, avec le jeu de rôle, je me suis dit, mais quelle histoire, ce serait chouette, parce que je commençais à bouquiner pour mes campagnes de jeu de rôle et les rendre plus intéressantes. Donc finalement, je me suis inscrit en histoire en me disant, je vais faire une année pour les... Puis j'ai eu mon diplôme d'histoire, quoi. Puis ça m'a amené assez vite aussi vers la reconstitution. Et t'as pas envie de tenir une vraie épée, là, il y a, je veux bien, ouais. Puis on est allé chercher un copain qu'on avait vu dans le journal local, parce qu'il s'était fait une armure en boîte de conserve. On n'a toujours pas compris comment il se blessait pas. Mais on a fait une campagne médiévale. Et puis ça nous a tous rendus moins timides, puisqu'on sait bien aussi que ça nous a créé du lien social, parce qu'on était tous un peu boutonneux comme ça dans notre coin. On s'est fait des copains, et puis évidemment c'était toujours pas génial pour draguer des filles, parce qu'il y en avait beaucoup à la table de jeu de rôle, mais à l'époque. Mais ça nous a apporté énormément de choses dans la vie, y compris pour finir d'écrire. Il n'y en avait pas beaucoup autour de moi. Généralité. Je ne veux pas me faire classer.
Donc c'est bon pour la construction d'univers, c'est bon pour la construction de personnages, et aussi pour acquérir un sens du dialogue et de la
En fait, c'est bon pour tout.
J'ai l'impression. Hein. Et c'est réputé difficile de passer du jeu au roman.
Non, c'est pas
ça. Alors, voilà, comment ça s'est passé pour vous? C'est quand même pas la même chose du tout. Donc, voilà, par quoi il faut passer? Qu'est-ce qu'il faut travailler?
Fabien a dû trier dans 500 000 lignes de dialogue.
Effectivement, c'est pas du tout la même façon de raconter les histoires, que ce soit d'ailleurs pour un jeu de rôle papier autour d'une table, que ce soit pour un jeu de rôle informatique, que ce soit après pour un roman, c'est pas du tout la même façon de raconter les histoires. Donc une même histoire construite autour d'une table avec 3, 4 ou 5 joueurs, ou bien préparée, parce que moi il y avait un seul héros dans ce que je faisais sur Neverwinter Night, puisque c'était pas tard de quotidien. Préparer ça sur informatique ou bien ensuite l'écrire en roman, il a fallu à chaque fois faire rentrer jouer avec 500 000 mots, les recomposer, mais ça fonctionnait évidemment pas, donc il fallait rajouter des personnages, les personnages commençaient à vivre dans l'histoire, donc il fallait les intégrer, ça bouleversait complètement tout ce qui était prévu, il fallait donc reprendre à zéro, recommencer. Et quand on aime ça, on aime ça.
J'ai peut-être une réponse en peut-être deux parties à donner, qui est un petit peu longue, tu m'interromps si jamais je m'égare. Alors, et demain, moi si je donne mon point de vue d'auteur professionnel de jeu de rôle, je pense que Fabien a le même point de vue, c'est que quand on écrit un jeu de rôle, on crée un univers, uniquement, on va dire. Voilà, et cet univers, on doit le rendre assez détaillé, assez précis, avec assez de narratif pour que vous autres, le public, les rôlistes, les MJ, vous empariez de cette matière et que vous fassiez vivre les histoires à vos joueurs là-dedans. Nous, on ne raconte pas d'histoire. On raconte un univers. Quand on écrit un roman, on raconte une histoire, par contre. Et si on raconte que l'univers, ou que l'univers parasite trop l'histoire, c'est là qu'on va avoir ce qu'on appelle un roman de rôliste, péjorativement, souvent, qui est dit. C'est-à-dire qu'on veut juste... T'as vu mon bel univers, quoi, façon exhibitionniste de parc. T'as vu mon bel univers, il est cool, sauf que l'histoire qu'on raconte dedans, elle n'a pas d'intérêt, elle est parasitée, les personnages sont fades. Et c'est là-dessus qu'il faut faire un travail, c'est qu'on doit, parce qu'on a l'habitude pendant des années de raconter un univers, il faut qu'on fasse l'effort de mettre l'univers de côté, de dire il va passer par l'histoire. On ne va pas tout détailler, on ne va pas expliquer la politique de la baronnie, c'est juste le héros quand il va y passer, peut-être qu'il va voir un mec pendu à un gibet qui va demander ce qui s'est passé. On lui racontera, enfin on donne de l'élément d'ambiance, mais on ne doit pas expliciter l'univers de façon lourde, parce qu'à ce moment-là, le lecteur, il sent bien qu'on veut juste lui montrer quelque chose, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour moi la première difficulté. Après, la deuxième difficulté, c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure. Quand il s'agit de passer d'un métier à l'autre, c'est-à-dire d'auteur de jeux de rôle à romancier, c'est Mathieu Gabory qui avait dit ça dans une interview que j'avais fait de lui pour Mythologica. Le rôliste a une honte prométhéenne de son loisir. C'est-à-dire que les rôlistes...
J'aime bien les citations de Mathieu.
Ouais, c'est toujours ça, ça pète à chaque fois, quoi, ça claque. Le rôliste est passionné. Il adore faire du jeu de rôle. Par contre, il est incapable de prendre le jeu de rôle au sérieux. C'est-à-dire que tout ce qui est travail universitaire, d'analyse, de qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle, de qu'est-ce que c'est que la grammaire du jeu de rôle, comment on le crée, la théorie rôliste. La plupart des rôlistes vous diront, non mais c'est de la branlette intellectuelle, j'en ai rien à foutre, quoi. C'est juste un loisir, on ne va pas se tirer la nouille dessus. Et ça, c'est honteux, j'ai envie de dire, c'est faux. Le jeu de rôle, c'est un loisir, certes, mais c'est un art de création, enfin art, je ne sais pas, mais c'est au moins un artisanat, c'est un acte de création, qui est particulièrement, je trouve, honorable. C'est quelque chose de précieux, d'important. On voit que toute la scène francophone de fantasy est passée par là. C'est qu'il y a quand même quelque chose. Donc pourquoi en avoir honte? On dit vraiment que le rôliste a honte de ce loisir et qu'il estime qu'un rôliste, un auteur de jeu de rôle, ne devrait pas faire autre chose de plus noble, entre guillemets. Et moi aussi, ça, j'ai pensé longtemps. J'ai longtemps pensé que je serais cantonné en tant qu'auteur de jeu de rôle. Parce que je serais un écrivain raté, en quelque sorte. Et non, pas du tout. Alors, je ne prétends pas être un bon écrivain, mais au moins, je suis un écrivain qui est capable de pondre des romans. J'y arrive, c'est possible. Il n'y a pas de honte à avoir été rôliste, à être rôliste, à être auteur de jeux de rôle. Et je crois vraiment que le jeu de rôle gagnerait à à être plus prétentieux et à se dire oui, on est quelque chose, on est un média qui apporte quelque chose, on infuse le reste. Sur Arte récemment, il y a eu le magazine Beats qui a consacré une émission au jeu de rôle en disant oui, que c'était un loisir quasiment séminal pour le milieu geek. Parce qu'il infuse tout le reste.
Je suis absolument convaincue de ça. C'est aussi, enfin, toutes les pratiques récentes d'appropriation par le public des fictions, qui fictionnent fan art, etc., qui est aussi une de leurs sources principales du jeu de rôle et du fait de pouvoir entrer dans un univers et jouer ses propres histoires. Je suis absolument convaincue de ça. En même temps, est-ce que dans le milieu du jeu de rôle, il n'y a pas de manière extrêmement puissante et là aussi presque séminale une importance de la parodie, du second degré, de la distance, Donjon d'Albuck et autres, il y a énormément, quand les gens qui aiment le jeu de rôle, effectivement, aiment se moquer du jeu de rôle. Bah, c'est-à-dire que pour le prendre au sérieux, ils auraient besoin de pouvoir en dénoncer les clichés.
Il faut dire aussi que quand on fait une partie de jeu de rôle, on retrouve les copains, et à un moment ou à un autre dans la soirée, on va avoir envie de se marrer, et avoir quelqu'un qui va faire...
C'est vrai, quoi.
Oui, à un moment, il y a quelqu'un qui va dire une connerie ou qui va faire une connerie, on va se marrer.
Est-ce que c'est différent de ce que font Terry Pratchett ou Douglas Adams, de ce qu'ils faisaient? Je ne sais pas, eux aussi, c'est des clichés de leur littérature, de leur genre, et c'est ça, finalement.
Si on veut regarder un petit peu, moi je regarde l'importance du jeu de rôle sur Marie, avec moi on était séminal sur ma vie. Très beau mot.
Un peu porno.
Un peu porno, un peu
sale, je trouve.
Ça a conditionné ma vie sociale, ça a démarré ma vie sociale d'adolescent, ça a déterminé mes études, ça m'a conduit à un jour être aux imaginales auprès de vous. Mais ça m'a aussi amené, par exemple, quand j'étais, c'est pas anodin non plus, quand j'étais gosse, mon père m'a emmené quelquefois en montagne, et puis adolescent, t'as plus envie d'aller en montagne, parce que tu on fait votre jeune là-bas, et puis tu laisses tomber. Et puis en faisant du jeu de rôle, on s'est mis à mettre en scène des histoires dans les montagnes, et puis tu lis Tolkien qui adorait les montagnes, qui faisait sentir cet amour des montagnes. Donc je me suis rendu compte que je faisais de plus en plus de scènes, de jeux de rôle, de cadres dans les montagnes. Et un jour, je me suis dit, mais j'ai envie de revoir vraiment la montagne. Je l'ai explorée en rêve de plus en plus souvent, et j'ai envie de la réexplorer vraiment. Je suis reparti en montagne, non, en Suisse. Le pays où ils font un chocolat moins bon qu'en Belgique, mais passable. Et donc, en fait, j'ai commencé à refaire de la montagne et puis finalement à en refaire tous les ans. Donc, j'ai commencé à faire ce que je ne faisais pas comme adolescent, boutonner et rouler, à faire du sport. Et puis, à 30 ans, j'ai décidé d'arrêter de fumer et de le faire à la marche en montagne. Et ben, si je n'avais pas fait, je serais sans doute mort à 57 ans d'un cancer du poumon. Donc, le jeu de rôle a sauvé ma vie.
Et t'as renoué avec ton père, justement, en faisant ça? Tu faisais ça avec lui?
Certaines années, oui, j'ai renoué avec mon père. Je lui ai expliqué comment j'avais mis en scène, en jeu de rôle, mon opposition à lui, mon histoire sordide.
Et faire des randonnées en montagne avec lui, quoi, je voulais dire.
Aussi.
Je ne veux pas couper votre thérapie, groupe, mais pour reprendre un peu la question de Anne, pour ma part, je fais aussi accessoirement de la BD depuis peu. Donc c'est encore une autre façon de raconter les histoires et on apprend avec le jeu de rôle à construire donc des personnages, des histoires, tout ça. Pour ma part, je construis mes romans en pensant aux personnages, en pensant à leur histoire et ce qui va construire l'ensemble. Et donc du coup, j'ai pas senti justement ce côté difficile de passer du jeu de rôle à l'écriture. Mais peut-être parce que je fais aussi dans tous les sens, ça aide peut-être, je sais pas. Après, pour aller dans le sens de mes comparses ici et vanter le jeu de rôle, je tiens à rappeler quand même qu'il y a des notoriétés qui l'ont pratiqué et qui maintenant font un peu leur coming out sur le jeu de rôle, genre, je sais pas, on pourrait dire Spielberg, on pourrait dire.
Dyson.
Ouais,
Dyson. Dyson,
la liste est longue, hein, donc. Non, parce qu'il tue que les personnages, ça compte pas ça.
Personne ne voulait jouer avec Martin.
Ouais, ah, il vient de faire une partie de loup-garou il y a 10 jours, je crois, en direct pour la. Je ne sais pas comment ça s'est fini, mais il était joueur, ils ne l'ont pas mis en tant que MJ.
Donc, moi, il y avait un message, hein, dans ce que je voulais dire, c'est que
les gens là qui êtes dans la salle, si vous êtes rôliste, auteur ou autre, je veux dire, il n'y a pas, c'est pas honteux, quoi. C'est bien, c'est beau, c'est un loisir qui est cool, on s'éclate, c'est noble, on crée des histoires, et créer des histoires, c'est l'essence de ce qui fait l'humanité, quelque part. Et vous pouvez devenir écrivain si vous en avez envie, vous pouvez être auteur de jeux de rôle, il n'y a pas de complexe à avoir, pas de barrière à se mettre, c'est deux univers qui communiquent, qui doivent mieux communiquer, donc il ne faut pas hésiter à se lancer. Moi je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais bon, ce qui est fait est fait. En tout cas, je suis heureux maintenant d'avoir un pied un peu partout, et je n'arrête pas l'écriture du jeu de rôle parce que je suis devenu romancier. Pour moi, je continue le jeu de rôle parce que c'est complémentaire, et que je n'ai pas envie de faire comme si c'était un upgrade, et que je n'avais pas à me retourner sur mon passé. Ça fait partie de mon présent et ça continuera. Mon futur sera fait de romans et de jeux de rôle.
Bravo. Moi, en revanche, je n'ai jamais ressenti ni connu dans mes groupes une éventuelle honte de faire du jeu de rôle, pas du tout. Au contraire, j'ai réussi à convaincre les mères de mes amis que c'était hyper bon pour leurs enfants qu'ils fassent du jeu de rôle avec moi. Et du coup, y en a beaucoup qui étaient un peu timides ou autres, et en quelques mois, voilà, la timidité, on la dépasse largement, et c'est extrêmement positif. Donc, j'ai jamais ressenti ça, et d'autant plus que j'ai beaucoup joué à un jeu de rôle sans dé qui s'appelle Ambre RPG. Et dans un jeu de rôle sans dé, finalement, on écrit un livre. Et d'ailleurs, l'un des moyens pour avoir un personnage plus puissant, c'est d'accepter d'écrire à chaque fois l'histoire de son personnage d'une fois sur l'autre, et de la porter au maître de jeu à chaque fois. Et on a le droit, dans cette histoire d'ailleurs, d'ajouter des petits éléments pour se donner des avantages ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est hyper créatif, et en même temps, c'est le lien entre les deux. Et effectivement, tout ça, c'est de l'imaginaire, c'est de la construction, c'est de la création, c'est une forme d'art quelque part. Et un art où on peut se rigoler et se marrer, en plus de temps en temps. Et donc, les liens sont là, et pas de honte, non, aucune honte, jamais, et ni maintenant, ni avant.
Ben c'est vrai que sur la honte, moi c'est Mathieu. C'est à cause de Mathieu qui lui n'a pas
su. La prochaine fois, tu viendras aux Imaginales pour te défendre.
C'est vrai que cette histoire de honte, moi je me rappelle, à 14 ans, j'ai eu ma première petite amie, et elle a regardé dans mon sac, elle a fouillé mon sac. Oh, dans ton sac. Et en fait, il y avait mes scénarios de jeux de rôle. Elle a sorti une feuille, elle a fait
« J'ai peur.
Hey, c'est quoi deux squelettes ? C'est quoi deux squelettes ?» Jamais réussi à rattraper le coup. Il y avait quand même une sorte de gêne, parce que c'était difficile d'expliquer à l'époque ce qu'on faisait.
Le jeu de rôle français a effectivement une histoire derrière lui de confusion, de méconnaissance grave.
On a pris cher dans les années.
Avec l'histoire de Carpentras, évidemment, qui a été une espèce de séisme, mais j'ai l'impression que les choses ont énormément, vraiment évolué. Enfin, moi, actuellement, dans les écoles, enfin, les ateliers périscolaires pour beaucoup d'enfants dans les écoles, alors ils ont le choix entre plein d'activités, mais il y a jeu de rôle.
Mais je aussi, pense que là encore, je
y peux. Il y a aussi street art, enfin, là, voilà, ça fait partie des choses qui sont maintenant.
En revanche, je pense qu'on doit peut-être plus ça à la littérature de l'imaginaire, au grand public, de tout ce qui est Harry Potter, l'adaptation de Tolkien et autres, qui ont redonné aussi le goût de l'imaginaire et qui ont ouvert des portes et qui ont permis de développer peut-être un peu plus le jeu de rôle. Et le mauvais emploi du terme jeu de rôle dans le jeu vidéo, je pense, a drainé des joueurs, mais a aussi amené des joueurs vers le jeu de rôle, on va dire, sur table.
Puis le jeu de rôle commence à être étudié de façon universitaire, hein. Il y a des conférences, il y a des gens comme Jérôme Larré, Coralie David, qui a fait une thèse là-dessus, sur littérature comparée sur le jeu de rôle. Ça donne.
Il y a des auteurs qui font leur coming out, qui avouent qu'ils font du jeu de rôle aussi.
Ça donne une légitimité, tout ça, c'est vrai. Et pour te répondre, ce n'est pas les rôlistes eux-mêmes qui ont honte de leur loisir, c'est qu'ils ne comprennent ou n'acceptent pas que ce loisir puisse être étudié, puisse être plus que juste se marrer entre potes autour d'une table. Puisse être un vrai média avec une force, une grammaire, et qu'on puisse l'étudier de façon sérieuse.
C'est aussi accessoirement un outil dans les entreprises, hein, qui est un peu bâtardisé en principe, mais les outils utilisés par les DRH pour se mettre dans la peau d'un tel, jouer un rôle dans une scène donnée et faire du co-working, en fait, des trucs comme ça. Hein.
Oui, c'est un autre sens du jeu de rôle, c'est le psychodrame.
Bon, serious game, des fois.
Du serious game, etc. J'ai encore une question, c'est est-ce que vous faites une différence, il y a autour de cette table, enfin, c'est pas une table, de le long de cette estrade, des pratiques très différentes entre création originale, enfin, est-ce que, par exemple, Fabien, lui, il développe ce Fabien-là, il développe dans son roman le même univers que dans son jeu. Romain, en revanche, c'est le même type d'inspiration, mais c'est autre chose. Fabien, c'est l'autre Fabien. Fernandez, c'est des activités entièrement parallèles. Alors, sauf pour Détroit, où là, vraiment un pont a été fait, mais ça, mais il y a là, entre les romans et les jeux sur lesquels tu travailles, il n'y a pas de point commun. Oui, non, ben, voilà.
Sur les thématiques.
Pourquoi ces choix-là et est-ce que vous faites une différence entre le développement d'un même univers en jeu et en roman ou alors l'idée d'une création originale est importante dans la démarche. C'est à Robin que je vous ai posé cette question. Parce que justement, tu as la batterie des.
Moi, je suis un peu le spécialiste des adaptations en jeu de rôle, c'est-à-dire que je bosse sur la matière des autres. Chin, c'est un jeu historique, donc j'adapte l'histoire. La Brigade Chimérique, c'est une BD. Hexagone Universe, c'est des BD de super-héros aussi. Et mon prochain Mythic Battles Panthéon, c'est une adaptation de jeu de figurines. Donc, j'ai finalement très peu d'univers personnel en jeu de rôle, d'une certaine manière. J'y mets toujours de moi-même, hein. Je bosse beaucoup dessus. Mais c'est souvent des univers qui appartiennent à d'autres, qui ont été conceptualisés par d'autres et que moi je dois prolonger comme une sorte de produit dérivé finalement, que je préfère voir comme une valeur ajoutée. Pour la Brigade Chimérique, ça a vraiment été le cas, puisque c'est même le jeu de rôle qui a été nommé au prix QSF de l'Uchronie, et pas la BD, c'était le jeu de rôle. Du coup, c'était assez flatteur de voir qu'on était considéré quasiment à égalité avec le produit de base. Mais c'est vrai que du coup, quand je me lance dans les romans, bah, je vais peut-être développer enfin quelque chose de personnel qui m'appartient. Quoi. En tout cas, je serais très content si, une fois que je serais venu à bout de cette trilogie, si je pouvais l'adapter en jeu de rôle, j'hésite pas une seconde non plus. Donc,
Et en même temps, il y a la Chine quand même qui fait clairement le lien entre
pas mal de choses. La Chine, le super-héros, enfin, j'ai des passions, la mythologie grecque qui se retrouve, un peu partout, effectivement.
Que tu as repris du jeu de rôle pour réinvestir dans un
oui, c'est-à-dire que c'est un peu comme Fabien, quoi. On passe pas mal d'heures à faire des recherches sur un domaine, on devient assez pointu sur ce domaine, bah, du coup, on se tourne naturellement vers ça, vers ce qu'on a assimilé pour créer quelque chose de nouveau.
Comme historien, tu vois la gamme Cthulhu, par exemple, vieux jeu de rôle, mais il y a des compléments qui ont fait un travail historique génial, où tu explores des époques, des lieux, t'apprends plein de choses, c'est formidable, quoi.
Et donc, toi, tu partais de Donjons et Dragons pour arriver au Sentier des As, c'est ça?
Oui,
mais voilà, le chemin, parce que, alors là, pour le coup, on ne voit pas du tout, en lisant le roman, jusqu'à ce que les romans, l'origine rôliste et surtout est extrêmement lointaine.
Alors, elle est extrêmement lointaine au niveau de l'univers, parce qu'effectivement, l'univers a été retravaillé de fond en comble. Ceci dit, quand je reprends la même carte et que je fais jouer une partie ou ce qui m'arrive plus exceptionnellement dans cet univers-là, je tolère des éléments que je ne mettrai plus dans mes romans. Par exemple, les elfes, j'en veux pas, c'est trop bateau, à mon sens, ce genre de choses. Il y a moyen de revoir des thèmes autrement. Mais moi, je n'avais pas envie d'en mettre, mais si je fais une table, je le permettrai peut-être. Mais dans ce monde en particulier, là où l'influence du jeu de rôle est la plus forte, c'est dans la structure du roman, en fait, de la saga. Puisque quelque part, la structure de la saga, pour faire vite, c'est une expédition dans le Grand Nord où les membres de l'expédition qui remontent le fleuve ont leur côté mystérieux. Et dans chacun des tomes, donc on va suivre sur les quatre tomes le récit d'expédition, et dans chacun des tomes, il y a un des personnages qui va expliquer comment il en est arrivé là. Donc il va en fait raconter sa vie.
Et
en fait,
c'est par exemple dans le tome 3.
C'est une structure en fait de partie de rôle qui n'a pas commencé. C'est en fait le background de différents personnages qui en arrivent au point où ils se rencontrent. Et le point où ils se rencontrent, c'est le début de l'intrigue principale. Et comment ça se raconter. Et d'ailleurs, effectivement, les trois personnages qui qu'il se raconte dans, le, dans la saga sont trois backgrounds de jeux de rôle, dont deux ont effectivement été joués pendant un certain temps. Il y a un lien.
Moi, donc, comme je disais tout à l'heure au début, j'ai commencé par adapter des livres qui me plaisaient. Après, j'ai donc construit l'univers des bâtards de Tosquian. En fait, c'est lui qui m'a forcé à passer à autre chose. C'est lui qui m'a remis le couteau sur la gorge. C'est un personnage assez fourbe. Et il a réussi à. Je ne sais pas comment il a fait exactement, mais.
Tu raconteras ma vie.
Il m'a mis quelque chose comme ça, un couteau sous la gorge la nuit, que je n'ai pas bien compris. Mais du coup, j'ai après eu un projet bande dessinée pour essayer de lui sauver la vie, parce que sinon, là, dans Neverwinter Night, il avait passé le pauvre gars. Et après il est sorti, pareil, il m'a forcé à écrire des romans, mais c'est beaucoup plus. Enfin, dur, je ne sais pas, mais j'ai écrit la BD en entier, donc beaucoup plus long à écrire, je trouve, qu'une bande dessinée. Il me force à travailler, mais c'est de la folie, mais au secours, libérez-moi. Non, mais c'est super. Il étant le bâtard, c'est lui qui s'est imposé, en fait. C'est lui qui a voulu exister. C'est lui qui a voulu continuer. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et voilà.
Et enfin, bien sûr, aussi, dans cette série, il y a un aller-retour entre la période où vit le bâtard et une période beaucoup plus récente, au 19e siècle, où une enquête est menée. Parce que donc on part donc d'un univers qui est plein de magie, où il y a des elfes, entre autres, où il y a des peuples magiques, et on doit finir par arriver à un monde qui est le nôtre sans magie. Est-ce que cet aspect-là était déjà dans le jeu de rôle, ou ça c'est complètement une nouveauté?
Oui, c'est complètement une nouveauté, mais c'était pour les gens qui y avaient joué que je l'ai fait. Parce que je me suis dit... Bon, les gens qui m'ont suivi, qui ont fait ces scénarios, qui ont les ont joués, ce sont tous des bâtards de Kosigan, puisqu'ils ont tous eu leur propre personnage. C'est pour eux que j'ai fait un premier tome dont l'histoire n'avait jamais été écrite avant, parce que je me suis dit, ils ne vont pas lire quelque chose qu'ils ont déjà joué. C'est pour eux que j'ai ajouté le 19e siècle en me disant, il faut aussi qu'ils aient une histoire passionnante à côté, effectivement qui commence doucement dans le 1, mais qui prend vraiment de l'ampleur après. Qui sait une histoire passionnante à côté, parce que s'ils se souviennent des grandes lignes de ce qu'on avait fait en jeu de rôle, eh bien, ils vont retrouver ces grandes lignes, même si effectivement il y a de nouveaux personnages, de nouvelles façons de les amener, mais ça reste les mêmes lignes. Donc voilà, c'est pour eux que j'ai fait ça, et franchement, j'en suis content, mais c'est dur, c'est difficile.
Une fois de plus, ça a rajouté un niveau de difficulté. Non, mais c'était un peu le sens de ma question sur justement reprendre un personnage déjà utilisé, et donc ça implique de lui faire faire autre chose, ou bien développer un univers original. C'est pas le même travail sur le livre qui est derrière. Et donc Fabien Fernandez, l'autre Fabien. Des activités parallèles ou plus de liens qu'on pourrait le croire entre les deux?
En fait, il y a des liens, je m'en suis rendu compte assez récemment, mais il y a plutôt des liens avec tout ce que je fais, c'est-à-dire que je crois qu'il y a deux grands thèmes dans ce que je fais, outre le fait de tout le temps raconter une histoire, quelle que soit la forme, que ce soit par l'illustration, la BD ou quoi que ce soit, c'est on va retrouver un peu la thématique de l'écologie. On va trouver notamment dans le jeu de rôle Islandigard, dans ce roman-là, dans un roman que je suis en train d'écrire pour Lynx, qui traite des Dust Bowl, et c'est les années 30, mais on a une bonne couche de Monsanto derrière qui s'en dépied. Et l'autre facette thématique, ça va être l'humanité. L'humanité dans la quête de soi, peut-être dans ce roman-là, dans Cœur sauvage, dans Détroit, qui traite d'une sorte de violence intérieure, mais aussi de construction de soi. Et dans je vais mettre un peu un autre rapport sur le même pied, c'est-à-dire que j'aime bien voyager aussi. Et le voyage, pour moi, se fait donc autant par la littérature, le jeu de rôle, et vraiment le voyage. En l'occurrence, j'ai la chance. France, je reviens de Louisiane. C'était une bonne excuse pour y aller, mais c'est aussi un outil de travail. Je prépare un roman qui va donc traiter aussi d'humanité, puisqu'on va parler de l'humanité en Louisiane, à Nouvelle-Orléans, mais aussi côté un peu shakespearien, puisqu'on va voir Roméo et Juliette. Enfin, c'est tout ceci est connexe par la thématique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Oui, donc forcément, tu es un créateur, et donc c'est toi qui vas exprimer dans les différents médiums et les différents supports sur lesquels tu travailles. En même temps, les romans sont plus réalistes, me semble-t-il.
Oui.
C'est pas tous.
Oui,
non, ils sont entièrement réalistes.
Non, il y a du chamanisme là-dedans. D'ailleurs, on retrouve du chamanisme dans le jeu Histoire d'hier aussi. Dans mon roman d'Osgood que je suis en train d'écrire, il y a du surnaturel. On est plutôt dans un cadre fantastique.
D'accord.
Détroit, c'est très réaliste. Oui, c'est plutôt assez réaliste. Après, si on prend par exemple le jeu de rôle, le projet Pélican, il a un cadre assez réaliste et historique, puisqu'on est dans les années 70 avec les Amérindiens et la prise d'Alcatraz. Lui, on glisse vite sur du surnaturel horreur. Donc, il y a cette base réaliste, quoi.
D'accord. Donc, il n'y a pas deux imaginaires là encore différents.
Normalement, c'est le même cerveau qui travaille.
Est-ce que vous avez un dernier mot sur cette passionnante question avant de refermer cette page-là?
Oui. J'ai un dernier mot parce que j'ai une page de pub en fait. J'ai un jeu qui sort normalement, on croise les doigts, pour la rentrée de septembre, qui s'appelle Destart, qui sort chez Matago. C'est un jeu qui se découpe en 10 scénarios, 10 univers différents, pour des parties courtes, 1 heure à 1h30. C'est une sorte d'initiation au jeu de rôle. Et il a un lien avec cette table ronde, puisqu'on prend des univers très inspirés qui vont aller des Trois Mousquetaires à Harry Potter, sans les citer parce qu'il n'y a pas l'histoire de copyright, mais c'est très inspiré, donc il y a une prise en main assez rapide, logiquement, et avec des mondes de l'imaginaire et pour faire du jeu de rôle. Donc,
un bon point de débat.
Moi, j'avais envie de dire encore quelque chose sur ce que le jeu de rôle peut apporter à un écrivain. C'est qu'il y a deux choses qu'on ne souligne pas souvent, c'est que la première chose, c'est que le jeu de rôle, c'est aussi une interaction entre des personnages réels, des joueurs réels. Donc, ça crée, tu es témoin, tu participes à une dynamique entre les personnages qui est vraiment très développée, qui est très forte. Et si tu en tires bien les fruits, tu peux vraiment apprendre à faire relationner tes personnages, à les faire parfois se heurter et s'affronter de façon intéressante. La deuxième chose, c'est qu'en tant que maître de jeu, parfois, ça ne se passe pas du tout comme tu le comptais. Et ton schéma, il se casse la gueule, tes joueurs foutent le bordel. Et ça, il y a des moments où c'est juste divin en jeu de rôle. Parce que tu as des accidents qui sont formidables. Alors, tu prépares le gros affrontement entre ton groupe de PJ et les PNJ en face. Tu as un gros guerrier, tu te dis qu'il va finir avec un duel avec le gros guerrier en face. Et à la fin, il négocie. Le gros guerrier s'en va, le reste du groupe se fait atomiser. Ça ne se passe pas du tout comme tu avais prévu. Mais en fait, c'est génial parce que quand tu écris ton histoire tout seul, tu as tendance malgré tout à rester dans des canevas. Et souvent, tu travailles, tu essaies de donner d'élasticité à ton esprit pour sortir des canevas narratifs habituels. Mais en jeu de rôle, ça se fait tout seul parce que c'est ce grand bordel humain autour de la table. Et ça t'ouvre l'esprit aussi pour quitter les canevas. Et les dés, bien entendu, qui font parfois des choses absolument fabuleuses. Et tu es habitué à avoir des surprises et tu vas continuer à les rechercher dans ton écriture.
Pour revenir sur un élément que j'avais commencé à développer, et je pense vraiment que ces deux milieux, littérature et jeu de rôle, devraient vraiment se rapprocher plus encore qu'ils ne le sont, parce que les liens sont informels. On est des auteurs, on passe de l'un à l'autre. Mais pour moi, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas là dans la bibliothèque des éditeurs de jeux de rôle? Pourquoi est-ce qu'à côté des Lames du Cardinal de Pierre Prével, on n'aurait pas la boîte du jeu de rôle des Lames du Cardinal que le Sambeco aurait édité?
C'est l'avenir, j'y travaille. Hein.
Ce genre de choses pour moi, comme ça la personne qui lit les Lames du Cardinal, elle se dit c'est quoi cette belle boîte avec des cartes, des dés, ça a l'air beau. On lui dit c'est le jeu de rôle qui est adapté, qui joue dans cet univers. Le mec se dit c'est cool, je peux peut-être essayer. Ou inversement, celui qui est uniquement rôliste, qui connaît uniquement le jeu de rôle, se dit c'est tiré de roman, il faudrait que je les achète pour les lire. Vous avez toujours un peu d'avance sur nous, hein, de toute façon, vous les Belges, c'est sûr. Vous avez appris avant nous à vous passer dans le gouvernement. On devrait l'apprendre aussi.
Appris.
Oui, à la dure, mais bon. Mais oui, je pense vraiment que ça a du sens pour moi. Il y a des jeux de rôle Star Wars, il y a des choses qui sont tirées, c'est des imaginaires qui sont transversaux, et on doit, à mon avis, travailler là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de très grande différence. Quoi. On s'éclate, on crée des histoires, on vit des histoires, et c'est la même chose. Donc ça devrait être la même chose dans ce genre de festival de salon.
Moi je reprends juste ce que disait Stéphane avec le fait que j'ai beaucoup joué à des jeux de rôle sans dés, et justement à Ambre, où les personnages sont d'une puissance colossale puisqu'ils peuvent manipuler la réalité et ils ont quasiment des pouvoirs divins et ils sont pas ensemble, donc ils sont hostiles les uns aux autres, ils essayent de gagner l'avantage toujours sur les autres, et donc ils inventent constamment des choses nouvelles que le maître de jeu a un mal fou à gérer. Ça demande de la réactivité en permanence. Je conseille énormément les jeux de rôle sans dés avec des personnages extrêmement puissants parce que justement ils forcent à être constamment dans la réaction, l'imagination constante, l'effort pour trouver des façons de gérer leur réaction. Et ça crée des choses en permanence, et c'est beau de créer.
Ça, c'est un beau dernier mot. C'est le dernier mot. Vous pouvez peut-être en